Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 11e épisode.
Après le corps, l'âme. La religion, la culture, l'éducation, l'accès au savoir, la création. Saintes et sorcières, lectrices et écrivaines, actrices et artistes seront cette semaine nos joyeuses compagnes. Mais d'abord, les femmes ont-elles une âme ? On attribue cette question qui nous paraît aujourd'hui saugrenue au concile de Mâcon en 585. Ceci dit, il semble bien que ce soit largement un mythe forgé à partir du XVIe et XVIIe siècle et constamment repris par la suite comme une preuve de la barbarie de l'Église en ces siècles de fer. C'est du moins ce que dit Emmeline Aubert, « La femme a-t-elle une âme, histoire d'un mythe ?» dans « La religion et les femmes », un livre très intéressant, collectif, publié sous la direction de Gérard Cholvy. Il semble bien que l'Église ait toujours pensé que les femmes avaient une âme et que, au contraire, elle affirmait l'égalité spirituelle des hommes et des femmes, avec aussi un rôle dans le consentement que les femmes devaient donner dans le sacrement du mariage. Mais ceci dit, cela montre que, entre les religions et les femmes, les relations ont été toujours et partout ambivalentes et paradoxales. Pourquoi ? Eh bien parce que les religions sont en même temps pouvoir sur les femmes et pouvoir des femmes. Les grandes religions monothéistes ont fait de la différence des sexes et de leur inégalité en valeur un de leurs fondements. La hiérarchie du masculin et du féminin, homme plus, femme moins, leur semble de l'ordre d'une nature créée par Dieu. C'est vrai pour les grands livres fondateurs, la Bible et le Coran, et plus encore pour les interprétations qui en sont données, sujettes à controverses et à révisions. Prenons par exemple le récit fondamental de la création d'Adam et Ève dans la Genèse. Les théologiennes féministes en débattent aujourd'hui. Et je me réfère ici à Pauline Schmitt dans « Ève et Pandora » publiée chez Gallimard. Selon la version originelle qu'on appelle Genèse 2, l'homme et la femme auraient été créés ensemble. Selon une version ultérieure qu'on appelle Genèse 1, ils auraient été créés l'un après l'autre, la femme étant seconde et dérivée, venue de la côte d'Adam, c'est-à-dire d'un os surnuméraire, comme le dira plus tard Bossuet, pour les inciter à l'humilité. Car l'Église catholique a adopté cette seconde version, et c'est bien là tout le problème. La religion pouvoir sur les femmes, c'est déjà le fait des fondateurs, mais plus encore des organisateurs de ces religions, qui toutes établissent le pouvoir des clercs et subordonnent les femmes, souvent exclues même de l'exercice du culte. Voyez la synagogue, voyez les mosquées de l'islam, où les femmes ne peuvent pas même pénétrer. Alors que le prophète Mahomet, tel que par exemple nous le raconte Assia Djebar dans Loin de Médine, était entouré de femmes. Le catholicisme, dont je parle surtout ici, est d'emblée résolument clérical et mâle, à l'image d'ailleurs de la société de son temps. Seuls les hommes peuvent accéder à la prêtrise et au latin, qui était la clé du savoir. Ils détiennent pouvoir, savoir et sacré. Mais cependant, le catholicisme laisse aux femmes pécheresses un échappatoire. La prière, le couvent des vierges consacrées, la sainteté, et le prestige grandissant de la Vierge Marie, cette antidote d'Ève, la reine de la chrétienté médiévale. De tout cela, de tout ce qui leur était laissé, les femmes ont fait la base d'un contre-pouvoir et d'une sociabilité. La piété, la dévotion, leur étaient devoir mais aussi plaisir. Elles pouvaient se retrouver, les femmes, dans les églises paroissiales, dans la douceur des reposoirs et du chant choral. Goûter, comme dit Flaubert à propos de Madame Bovary, les parfums de l'autel, la fraîcheur des bénitiers, le rayonnement des cierges. Elle pouvait, à l'église, trouver du secours, voire de l'écoute auprès des prêtres. L'église était un abri pour les femmes, et les couvents étaient certes des lieux de relégation et de clôture, mais aussi des refuges contre le pouvoir masculin et celui des familles, des lieux d'appropriation du savoir, et même des lieux de création. Les voix de femmes ont été d'abord des voix mystiques. Jacques Maître a montré l'écrasante supériorité des femmes dans la filière mystique depuis le XIIIe siècle, de Marguerite Porrette à Thérèse d'Avila ou Thérèse de Lisieux. La vie mystique se conjugue au féminin. Prière, contemplation, étude, jeûne, extase, amour fou, tissent le bonheur ineffable et douloureux, torturant et tendre, de ces femmes qui explorent les limites de la conscience et dont souvent l'Église se défie, comme de créatures déraisonnables, aux limites de la folie. Car l'Église n'aime pas beaucoup ces mystiques, comme elle n'aime d'ailleurs pas tellement ces saintes, Guy Bechtel l'a montré. Les saintes sont bien moins nombreuses que les saints, surtout à partir de la contre-réforme, parce que les conditions pour être une sainte étaient pour les femmes bien plus difficiles à remplir. Il fallait à la fois jouer un rôle public et être vierge, ce que on ne demande pas toujours aux hommes. Enfin, pourtant, certaines saintes ont eu un grand rayonnement, reconnu par tous. Par exemple, Catherine de Sienne, au XIVe siècle. Elle était la fille de teinturier de Sienne, qui avait eu 25 enfants. Il n'y avait pas beaucoup de contrôle des naissances dans ces familles. Elle était vierge, mystique, mais laïque. Elle n'a jamais voulu rentrer dans un ordre religieux, justement parce qu'elle voulait exercer un rôle public. Elle était le membre d'un tiers ordre dominicain. Elle peut par conséquent jouer un rôle public et même politique. Elle a joué un grand rôle, par exemple, pour le retour du pape qui était à Avignon, à Rome. Et puis elle voulait réformer l'Église qu'elle trouvait corrompue. Elle voulait promouvoir la paix en Italie, elle voulait même fortifier l'Europe. C'est pourquoi Jean-Paul II en a fait la seconde patronne de l'Europe. En somme, voilà une femme, en plein XIVe siècle, qui a eu un rôle politique et une très grande influence dans l'Église et par l'Église. D'autres femmes s'illustrent comme fondatrices d'ordres, missionnaires, éducatrice. Nathalie Zemon Davis, une grande historienne américaine, a publié un livre qui s'appelle « Trois femmes en marge » et elle y raconte l'histoire d'une juive, d'une protestante, d'une catholique, qui agissent chacune à partir de leur religion respective. La juive s'occupe surtout de sa famille, la protestante de science et la catholique de religion. Marie de l'Incarnation, elle venait de l'Anjou, fonde un ordre missionnaire au Canada et elle évangélise les Hurons. Il y en a eu beaucoup d'autres comme elle. Au XIXe siècle, notamment, il y a eu un très grand développement des congrégations missionnaires et enseignantes. Claude Langlois, d'ailleurs, a parlé du catholicisme au féminin en parlant des congrégations enseignantes. Elles ont donc joué, ces religieuses, un rôle éducatif considérable par les pensions et les ouvroirs. Et le personnage de la religieuse est un personnage très important. Au XIXe siècle, les femmes chrétiennes, alors je parle là des femmes dans leur ménage, agissaient par les salons. Par exemple, Madame Swetchin, au Faubourg Saint-Germain, avait fait de son salon un véritable centre du libéralisme. Elle était l'amie de Tocqueville et de Montalembert. Elle jouait donc un rôle politique par son salon. Ces femmes agissaient également par la charité et par les œuvres. Elles étaient dames patronesses. Et par là, elles exerçaient un rôle social, qu'on appelait plutôt philanthropie chez les protestantes. Elles agissaient aussi par l'écriture, en publiant des romans un peu moraux, pieux, en dirigeant des magazines comme la fameuse Veillée des Chaumières, que nos grands-mères et arrière-grands-mères lisaient tellement. Elles ont joué aussi un rôle dans le syndicalisme, par exemple dans les premiers développements du syndicalisme chrétien, qui était très féminin. Et on pourrait dire qu'au XXe siècle, dans le sein de la CFDT, des femmes comme Jeannette Lahotte ou Nicole Notta, toutes proches de nous, ont joué un rôle dans une CFDT naturellement complètement laïcisée, mais qui venait de ce rôle des femmes dans le syndicalisme chrétien. En somme, il y a une culture catholique qui est favorable à l'expression des femmes avec l'Église ou malgré l'Église dans ses allées et dans ses marges. Et naturellement, l'influence des femmes dans la famille, leur rôle dans la transmission de la foi était essentiel. Et aussi au village, où elles défendaient les femmes le pouvoir des cloches, par exemple, dans la société. Et c'est pourquoi les femmes devinrent, surtout en France, un véritable enjeu de pouvoir entre la Révolution et l'Église, entre les républicains et l'Église au XIXe siècle, et cela est en grande partie à l'origine des combats pour la laïcité. Michelet, par exemple, dénonçait l'intrusion du prêtre dans le couple par la confession. Zola montrait l'emprise des superstitions sur les femmes. Il a fait un livre sur Lourdes, qui est une démonstration du rôle des pèlerinages sur les femmes. Et puis aussi, il montrait leur rôle dans l'antisémitisme, dans l'affaire Dreyfus, par exemple, dans son roman Vérité. Alors la bataille s'est concentrée surtout autour de l'école, et elle a abouti à la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, loi importante qui est une spécificité française et dont nous fêtons cette année le centenaire. Protestants, les rapports de sexe dans la religion étaient différents. Et ça conduit d'ailleurs à poser toute la question de la réforme dès le XVIe siècle. Est-ce que la réforme a existé pour les femmes? Oui, dans un certain sens. Surtout pour l'instruction. Le libre accès à la Bible, que revendiquait la réforme, supposait que les filles aussi sachent lire. L'Europe protestante et la France protestante aussi les alphabétisa. Mais alors, en même temps, il n'y avait pas de réforme dans l'ordre domestique. Luther et Calvin avaient une conception très patriarcale de la famille. Et d'une certaine manière, en renforçant les pouvoirs du mari-père sur les femmes, dans la personne du pasteur, désormais il n'y a plus le prêtre et le mari, il y a le pasteur, et le pasteur est en même temps le prêtre et le mari. Et la femme de pasteur, eh bien la femme de pasteur est un des modèles des femmes protestantes, et elle est le type même de la femme auxiliaire de son mari dans l'exercice même de son ministère. Donc c'est ambigu, comme vous le voyez. Mais pourtant, de manière générale, les femmes protestantes ont été plus émancipées que les catholiques. À la faveur de ce qu'on appelle les réveils, les revivals, elles étaient de plus en plus nombreuses à prendre la parole, notamment en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire dans l'Est des futurs États-Unis. Dans les pays protestants, elles ont développé une sociabilité très originale, qui a été le développement d'un féminisme précoce. Et on le voit bien en Angleterre ou aux États-Unis, où ça explique un petit peu la différence entre le féminisme protestant et le féminisme catholique. En France, des femmes protestantes comme Isabelle Beaugelot, Sarah Monneau, Julia Siegfried et bien d'autres ont développé des associations. Par exemple, le Conseil national des femmes françaises, qui a été créé au début du siècle, qui était très lié aux États-Unis, et leur création et leur principal point d'appui. Et le birth control entre les deux guerres, comme le planning familial dans les années 1950 avec Evin Sulro, qui est une protestante, s'appuie beaucoup sur le protestantisme et la libre pensée. Et de manière générale, c'est même dans le domaine de la contraception et de la sexualité qu'elles ont joué le plus grand rôle, l'Église catholique étant, on le sait, beaucoup plus réticente à la modernité dans le domaine de la sexualité et de la contraception. Alors j'ai parlé surtout du christianisme, mais il faudrait bien sûr parler du judaïsme et de l'islam dans le rapport avec les femmes. Et c'est tellement important aujourd'hui. De manière générale, le judaïsme est très confié aux hommes l'interprétation de l'écriture. Et les femmes sont certes célébrées, et la sexualité, la conception de la sexualité est beaucoup plus chaleureuse et riche dans le judaïsme. Mais enfin, les femmes sont très liées à la famille et très peu liées au rôle public. Le rôle de la mère dans la famille juive, chacun le sait, est quelque chose de essentiel, peut-être même encore plus que dans les familles chrétiennes. Dans l'islam, sur cette question, il y a des livres qui ont été écrits et qui sont, notamment dans les dernières années, qui sont très riches. On retrouverait ce double mouvement de pouvoir sur les femmes et malgré tout de pouvoir des femmes qui tentent d'aménager les espaces qui leur sont donnés et laissés pour se les approprier et en faire autre chose. Et on peut dire que toute la complexité du voile est comprise dans cette question-là. Le grand problème aujourd'hui, c'est celui des intégrismes. Et ils sont florissants depuis les États-Unis jusque dans le monde de l'islam. Et les intégrismes font justement de la hiérarchie des sexes et de la domination des femmes quelque chose d'essentiel. Domination du corps des femmes, c'est véritablement leur pierre angulaire. Et c'est pourquoi, dans tous les pays où l'islamisme, je ne dis pas l'islam, où l'islamisme est important, la question des femmes l'est aussi beaucoup. Par conséquent, on le voit, la question des religions et des femmes est une question infiniment complexe. Et si l'on peut véritablement dire, on n'en a pas du tout fini avec cela. Ce n'est pas seulement l'histoire du passé, c'est l'histoire du présent.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.